Aujourd'hui, nous allons célébrer la Sainte Cène comme nous pratiquons au début de chaque mois. Et je voudrais que nous considérions un passage en Hébreux chapitre 5 qui suit trois versets que vous connaissez peut-être parmi les plus connus en hébreu. Si vous me permettez, avec vos Bibles, vous allez en arrière trois versets avant d'arriver à 5:1. Hébreux chapitre 4, donc verset 14. Hebrews 4:14 to start. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et puis, chapitre 5. Pour préparer nos cœurs pour la Sainte Cène, tout le livre de l'Hébreu est à propos. Le but de l'Hébreu est très simple. C'est de montrer aux chrétiens juifs qui commençaient à avoir des deuxièmes pensées sur la foi chrétienne par rapport à la foi judaïque. Des gens qui commençaient à penser, n'est-ce pas mieux d'aurait resté dans l'ancienne alliance où nous avions un grand sacrificateur vêtu dans toutes ses robes, avec ce merveilleux temple, avec tous les meubles, avec tous les ornements, avec toutes ces visibilités de la religion. On a tous laissé ça du côté. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire cela? Et le livre de Hébreux montre la supériorité de la foi chrétienne par rapport à ceux qui connaissaient avant, bien que ça ne soit pas des choses toujours visiblement en train de tourner devant les yeux pour les émerveiller. Ils étaient attachés à toutes ces choses et d'un coup, de suite, le temple, le voile du temple est déchiré du haut jusqu'en bas et tout ça s'arrête, tout ça s'est mis à l'écart. Et maintenant, on n'a rien de ça, paraît-il. Et l'apôtre qui a écrit le livre veut nous montrer, dans les quatre premiers versets, quatre choses. Je préfère d'appeler ceci une méditation sur ces neuf versets plutôt qu'un sermon. Une méditation sur les neuf versets ici, où nous voyons que le sacrificateur dans l'ancienne époque était obligé de se qualifier au moins en quatre différents aspects dans ces quatre premiers versets. Il fallait qu'il ne soit pas un ange, parce qu'il y a des gens qui disaient, écoute, si quelqu'un devrait faire une intercession, une médiateur entre Dieu et l'homme, ça serait bien si c'était un ange, un moitié Dieu peut-être. Non, il fallait absolument qu'il soit un homme, ce passage nous dit. Il fallait deuxièmement qu'il soit quelqu'un appelé par Dieu. Il fallait troisièmement qu'il soit quelqu'un qui sympathise avec les gens. C'est-à-dire, il pourrait sentir. Il n'est pas une question simplement d'intellectuel, mais c'est aussi une question de sentiment. Et il fallait qu'il sacrifie pour les hommes. Ça se voit ici dans ce passage, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Trois idées qui sont présentées ici. Un prêtre doit être un être humain, pas un ange, pas un animal, pas qui que ce soit, mais il faut qu'il soit absolument un être humain. Et ça, c'est important, parce que son service est pour, en profit, pour favoriser des êtres humains devant Dieu. Vous savez, c'est ça le travail d'un prêtre. Le prêtre prend les messages des hommes et les amène à Dieu. Le roi et les prophètes dans la théocratie prenaient les messages de Dieu pour amener vers les hommes. Les prophètes étaient constamment en train de prêcher et souvent rejetés, maltraités, tués, parce que le message qui portait de Dieu vers eux n'était pas admissible pour eux. Par contre, ils voulaient, avec leur message, aller vers Dieu. S'il est un Dieu de colère qui punit le péché, ils se sont culpabilisés. Donc, Dieu a pourvu pour qu'il y ait un système de prêtrise sur l'alliance lévitique. Donc, le prêtre était préoccupé par prendre les messages de repentance, de remords pour le péché et de les amener vers Dieu pour que Dieu l'accepte. Donc, il était quelqu'un qui devait être comme un homme parce que l'apaisement d'une faute ne peut être fait que par le fautif. Un ange n'a jamais connu les fautes des hommes. Il fallait que ce soit aussi un homme. Et puis, en verset 2, il y a deux pensées à noter. Il peut user de pitié envers ceux qui soient dans l'ignorance et dans l'erreur, puisque lui-même, il est environné de faiblesse. Donc, il faut que ce soit un être humain, fragile, seul, fragile dans le sens que seulement un être humain fragile est capable de sympathiser avec un autre être humain fragile. Souvent, c'est le cas que vous n'avez pas pu sympathiser en profondeur avec quelqu'un avant que toi-même tu traverses les mêmes épreuves. Puis après, tu dis, waouh, maintenant je comprends ce qu'il lui a traversé. Avant, j'ai dit, mais écoute, allez, ça va, ça. Revenez à la vie est devant vous. On a toujours des messages optimistes, mais on n'arrive pas à comprendre sa douleur. Un prêtre était non simplement capable, mais obligé. Il fallait qu'il soit quelqu'un qualifié et obligé de sympathiser devant Dieu avec les faiblesses parce que lui-même, il en avait. Il pouvait se connecter d'une manière qu'un ange ne pourrait jamais faire. Et puis en versets 3 et 4, c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. C'est-à-dire, il commence par soi-même, comme pour le peuple. Puis après, il le fait pour le peuple. Nul ne s'attribue cette dignité, c'est-à-dire le prêtre ne peut pas imposer lui-même. Il ne pouvait pas dire, ça m'intéresse d'être prêtre, je vais aller au séminaire, je vais choisir le métier de prêtre. Ah non, 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 non. Chaque sacrificateur ou prêtre était appelé, choisi par Dieu. Notre texte dit, exemple, c'est Aaron, dans l'Ancien Testament. Donc, nous avons ces quatre choses ici. Nous avons le fait que cette personne était choisie parmi les hommes, pas par le peuple, pas par lui-même, pas par les autres grands prêtres qui choisissaient des petits prêtres, non, non, par Dieu. Il pouvait et devait sympathiser avec les souffreurs et il sacrifiait des sacrifices et des offrandes devant Dieu. Et puis dans les restes de versets, l'apôtre va nous montrer comment ça se fait que Jésus remplissait, exaucit toutes ses qualifications pour être enfin qualifié. En fin de compte, chapitre 5 jusqu'à fin de chapitre 10 est occupé par ce merveilleux sujet de montrer la supériorité de notre grand souverain sacrificateur Jésus-Christ par rapport à ce qu'il voyait comme magnifique Moïse. En verset 5, Christ ne s'est pas non plus attribué à la gloire de devenir souverain sacrificateur, c'est-à-dire, pareillement, Christ n'a pas du tout usurpé la place de son Père pour s'imposer sur la prêtrise. Et maintes fois dans les évangiles, je suis venu rien que pour écouter mon Père et faire ce qu'il me dit, et de faire sa volonté. Mais il tient de celui qui l'a dit. Sa prêtrise a été donc attribuée, désignée par Dieu, par celui qui a dit, et puis il va citer Psaume chapitre 2 et verset 7. Et Psaume chapitre 2 verset 7 dit: pourquoi ce tumulte, ces nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son roi? Vous voyez, en Psaume chapitre 2, vous pouvez regarder dans vos Bibles, mais je l'ai mis ici pour que vous notiez, parce que je voulais que vous compreniez, Psaume chapitre 2 était un peu pour les Juifs, comme Psaume 23 est pour les chrétiens aujourd'hui. Si vous ne connaissez qu'un seul psaume, c'est lequel? C'est Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les Juifs connaissaient peut-être mieux que 23, Psaume 2. Parce que, quand ils étaient découragés, quand ils étaient en train de s'affliger en dessous les vainqueurs humains, ils citent ces psaumes. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les jeunes? Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils et les princes se liguent avec lui contre l'Éternel? Et eux, ils s'intéressaient pas contre son roi. Qui était son roi? Mais son roi était celui qui va délivrer Israël, y compris Israël. Eux, ils étaient le roi de Dieu. Ils voyaient cela. Et ils savaient ce que disaient ces hommes pleins d'orgueilleux, dans leur arrogance, des gens qui leur opprimaient, qui disaient, brisons leurs chiens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, rit. Ô Seigneur, priait-il, regarde ce qui se passe autour de nous. Et toi, tu ris, parce que tu sais que tu devras faire. Le Seigneur se moque d'eux, et puis il leur parle dans la colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Oh, Seigneur, envoie ce roi! Envoie ce roi! Ma montagne sainte, Sion, Jérusalem. Je publierai le décret, chantait-il souvent. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. je t'ai enchanté aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ô Seigneur, nous voyons le jour. Ça ne se voit pas maintenant, mais ô Seigneur, nous croyons que tu vas envoyer le roi pour que, avec son oint, lui et nous, nous allons régner sur toutes les extrémités de la terre. Ô Seigneur, aide, viens, viens, priait-il. Tu les briseras avec une vierge de fer, tu le briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, vous les rois, oui Seigneur, permets que les rois écoutent, les rois païens, conduisez-vous avec sagesse, juges de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils, nous, Jacob, fruit d'Abraham, père d'Isaac, père de la nation d'Israël, son fils. Baisez le Fils plutôt que opprimer le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il savait ceci, il l'interprétait comme je venais de vous interpréter, et franchement, ils étaient corrects. Ce roi allait venir, ce roi allait leur délivrer, mais pas comme ils pensaient. Donc, le auteur de Hébreux est en train de parler de quelque chose qui n'est pas la première fois, parce que c'était une chose qui est très connue. Paul, l'apôtre Paul, avait cité ce verset en Actes chapitre 13, verset 33. Dieu l'a accompli. Tu es mon fils, Dieu l'a accompli. Pour nous, leurs enfants. Comment? En ressuscitant Jésus. Hein? En ressuscitant Jésus, c'est ça le sens de ce verset? Selon ce qu'il est écrit dans le psaume 2e, dit l'apôtre Paul, tu es mon fils, je t'ai enchanté aujourd'hui. C'est pas la première fois que l'auteur de Hébreux va utiliser ce verset. Il avait utilisé tout au début de Hébreux, chapitre 1er, quand il disait, écoute, des anges n'auraient pas pu intercéder de votre part. Non, 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 non. Pas les anges. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il serait pour moi un fils. Et maintenant, dans notre texte, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir sacrificateur, mais il le tient de celui qui l'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand Paul prêchait ça en Antioche de Pisidie, les gens étaient tellement choqués. Pour terminer le culte, les gens disaient, revenez la semaine prochaine. On veut entendre plus de cela. On n'a jamais dans notre vie réfléchi l'idée que ça aurait pu être la bonne interprétation. Mais c'est clair. Venez la semaine prochaine. Et il est venu la semaine prochaine en attendant les détracteurs, les détesteurs de Jésus-Christ venaient avec d'autres personnes pour le faire chasser à Béret, prêt. Mais c'était un verset très, très, très important et tous les Juifs, sans exception, connaissaient et connaissaient leur interprétation. Jamais les plus pieux parmi eux soupçonnaient la possibilité que ce soit un paysan de Galilée venant d'une région défavorisée avec un accent des gens de pays, crucifié sur une croix. qui était l'objet de cette prophétie. Et l'apôtre est en train de le montrer que c'était vraiment ça le cas, en citant de Psaume chapitre 2, verset 2. « Tu es mon fils, je t'ai engendré, je t'ai engendré. » Parlant de quoi? De l'incarnation. Les Juifs avaient une idée, une impossibilité, il était un blocage de pouvoir, même des chrétiens, tenir cette idée de incarnation. Leur Messie n'était pas Dieu incarné. Leur Messie était quelqu'un entre Dieu et l'homme, mieux que l'homme, moins que Dieu, mais pas Dieu. Et l'apôtre est en train de demander, il fallait absolument qu'il soit Dieu, pas simplement un entre homme et Dieu. Il faut qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit l'homme, et il n'y avait que Dieu qui aurait pu faire cela. Donc, en verset 5 et 6, comme il dit, verset 6, oui, comme il dit, encore d'ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Qui est Melchizedek? Melchizedek, c'est quelqu'un qui était déjà connu. Tous les Juifs connaissaient Melchizedek. Qu'est-ce qu'il connaissait? Il ne connaissait pas grand-chose. Mais il savait qu'il était un prêtre. Il savait aussi qu'il était un roi. Melchizedek était le roi de Salem. Ça date des siècles et des siècles et des siècles avant Aaron, avant leur système de prêtrise lévitique. Melchizedek était quelqu'un devant qui le grand patriarche Abraham se prosternait et payait les dîmes. Moïse était très élevé pour eux. Il se prosternait avec adoration presque. Abraham était beaucoup plus élevé que Moïse. Mais Melchizedek était encore plus élevé que Abraham. Et il le savait. Et donc, en verset 20, plus loin, il dit, Abraham lui donna sa dîme. Alors, chapitre 7 va parler beaucoup sur Melchizedek. Mais il fait une introduction ici parce que chaque juif s'accrochait tout de suite à ce nom. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, attention, Aaron, était-il roi? Non. Était-il prêtre? Oui. Melchizedek était les deux. C'est-à-dire, il venait avec des messages de Dieu et il allait aussi à Dieu avec des messages du peuple. Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qu'il alla au-devant Abraham, des siècles avant Moïse. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Moïse en avait parlé 2000 ans avant, en Genèse 14, 18 et 20. L'apôtre maintenant parle des milliers d'années après, en Hébreux chapitre 7, ici verset 6, « Et lui qui ne tirait pas de son origine. » C'est-à-dire, il était une image de l'éternité de la prêtrise de Jésus. On ne connaissait pas son origine, on ne sait pas son fin. Quand il est né, quand il est mort, il est juste là. Et Abraham le reconnaissait. Qui est-il? Et il ne savait pas, mais il savait que c'était quelqu'un de très important. Il ne fallait pas se tromper, il ne fallait pas se ridiculiser, il ne fallait pas se prendre à la légère. Et maintenant, l'apôtre va montrer plus tard, en chapitre 7, qui n'est pas notre... Juste pour introduire, parce que c'est lui qui l'introduit dans ce passage. Il est au même niveau, pas d'Aaron qui est ici, mais de Melchizedek. Et puis en verset 7, c'est lui qui Jésus, parce que c'est le sujet du paragraphe depuis verset 4, depuis chapitre 1er, chapitre auparavant, précédent. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire à partir de son incarnation, quelle était la biographie de Jésus à partir de Bethléem à Noël? Sa biographie, c'était que il s'était présenté avec de grands cris. Ça ne me donne pas l'impression que c'est un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, omnisagesse, omnitout, omnijoie. Il se présentait avec, devant Dieu, avec de grands cris, avec des larmes, souffrant avec douleur, larmes, cris, angoisse, des prières et des supplications. Jésus priait, Jésus suppliait, les deux mots qui montrent une dépendance totale. Prière, c'est juste demander, reconnaissant une dépendance sur une supérieure. Quelqu'un qui jouait d'une manière supérieure dans sa vie pendant qu'il était sur la terre, il s'était mis volontairement sur son Père comme supérieur, de ne rien faire sauf obéir, obéir, obéir. Il pleurait, il criait, et beaucoup de discussions, est-ce que ça parle simplement de ces moments en Gethsémané? Est-ce que ça parle sur le moment sur la croix? Est-ce que ça parle sur d'autres temps dans sa vie? La Bible est assez... la Bible nous parle assez des souffrances et douleurs de Jésus, que ça pourrait inclure le début jusqu'à la fin. Il souffrait. Il souffrait jour après jour, et très souvent plus que d'autres, comme nous, pendant qu'il était ici. Et ayant à celui, il prie à qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Ok, il priait, ô Seigneur, si c'est possible que cette coupe passe. Il priait ça, parce qu'il voulait ça. Est-ce que sa prière a été exaucée? Il est marqué qu'il était exaucé. Ayant été exaucé, il a été sauvé. Il a été sauvé. Jésus-Christ doit être sauvé. Oui. Et il a été sauvé. Il a été sauvé. Il n'a jamais péché. Mais écoutez, en se soumettant entièrement au Seigneur, il s'est soumis entièrement à la capacité, à la volonté du Père de se sauver de la mort. Il est très intéressant parce que cette préposition « de » est une préposition « et » qui veut dire « hors de ». Il était sauvé hors de la mort. Il était sauvé, que ce soit de la mort, que ce soit hors de la mort, qui probablement est la meilleure traduction. Il était sorti hors de la mort, il est entré dans la mort. Et puis, trois jours plus tard, la mort ne pouvait pas le retenir. Rappelez-vous, il y a, ça doit dater maintenant 2 ans, quand nous traversions le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, quand le psalmiste citait psaume chapitre 16, et des sons. Il n'allait pas rester à l'enfer, si vous voulez, dans le fond de la terre. Pourquoi pas? Parce que pendant des siècles, la mort frappait à la porte de qui que ce soit. Elle a pris comme une pierre, elle a lancé dans l'abîme de la mort, sans exception. Sauf Enoch. Sauf Élie, mais même pas Jésus. Il frappait à la porte avec une grande joie malicieuse. Ha ha, c'est lui,
que je veux frapper dans le tombeau, dit la mort.
Mais ce n'était pas une pierre, c'est comme un ballon en caoutchouc, pour illustrer, qui descendait mais qui ne pouvait pas être retenu. Pourquoi Jésus est ressuscité? Parce que la mort n'était pas capable de le retenir. C'est marqué. Il est ressuscité parce que la mort n'était pas capable de le retenir. Il n'était pas comme les autres. Il était sans péché. Il est revenu à la surface. C'est une illustration qui, pour moi, m'aide à saisir ce qui s'était véritablement arrivé et la raison pour laquelle nous célébrons la Sainte Cène aujourd'hui. Il a été sauvé à cause de sa piété. Sauvé à cause de sa piété. Pouvait-il que quelqu'un soit sauvé à cause de sa piété? Pouvez-vous être sauvé à cause de votre piété? Non. Existe-t-il quelqu'un qui peut être sauvé à cause de sa piété? Oui. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Sauvé à cause de sa piété. Quand le juge de toute la terre regardait le dossier, aucun péché, page après page après page, commençait par le commencement de la loi jusqu'à la fin de la loi, fermait le livre sur la piété de Jésus pour dire, ah, pour une fois, on trouve quelqu'un qui ne peut pas être gardé dans la mort parce qu'il est trop pieux. Il est entièrement pieux. Il n'y a pas de degré de pureté. Tu es pur ou impur? Jésus seul était pur. Jésus seul était pieux. Et Jésus seul était capable, en tant qu'être humain, de nous sauver. Donc, versets 5 et 8. Ah, oh, que c'est beau. Il a appris l'obéissance. Ce que nous avons ici, bien qu'il soit fils, il a pris l'obéissance. Ce n'est pas une question de supprimer la désobéissance en eux. Les parents, ils ont quelques années de travailler sur cette désobéissance dans leurs enfants. Et au fur et à mesure, ils cherchent à supprimer cette désobéissance pour qu'ils deviennent des enfants obéissants. Ce n'est pas une question que Jésus devait avoir la désobéissance supprimée au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il devienne obéissant. Ah, c'était jamais ça le cas. C'était plutôt d'être, si je peux le dire, officiellement qualifié, humainement, pour secourir nous, pour nous secourir dans nos besoins. Qualifié par expérience. Un ange ne pourrait pas se qualifier. Jésus s'est qualifié. Et après lui, et qui après avoir été élevé à la perfection, voilà qui vient le titre de notre message. Élevé à la perfection. On dirait, eh bien, Jésus, il était déjà parfait, n'est-ce pas? J'avais la traduction qui dit « amené à la perfection ». Dans plusieurs traductions, c'est ça, je crois que c'est dans le Louis II, c'est « amené à la perfection ». Jésus, par son obéissance, a été amené à la perfection. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Il voulait dire, pas une question de imperfection morale, mais c'est une question de accomplissement. Quels sont les derniers mots que Jésus a cités sur la croix? Jésus a cité sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. S'il terminait ses souffrances avant ce moment, tout ne serait pas accompli. Il ne serait pas élevé à la perfection. Notre salut n'aurait pas été perfectionné. Mais parce que Jésus souffrait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Certains ont du mal avec ce mot « obéir ». Est-ce que ça veut dire on est sauvé par la loi ? Obéir, ça veut dire il faut faire ça, 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 et si on n'a pas fait ça, il y a une désobéissance. Il est venu à sauver tous ceux qui obéissent, et c'est assez souvent, même dans des différentes traductions, où ce mot obéir est à la place de croire. Parce que la foi qui croit est une foi qui reçoit une capacité et un désir de être entièrement devant, en dessous la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas à dire qu'il ne peut pas pécher. Ce ne peut pas à dire qu'il ne peut pas de temps à autre et assez souvent et trop souvent commettre des actes de désobéissance. Mais l'obéissance de la foi qui change son orientation et sa mentalité en Christ, donné comme un don, ce salut éternel est pourvu. Parce que Jésus-Christ est choisi parmi les hommes dans son incarnation. Il fallait que Dieu devienne homme. Il fallait que ce ne soit pas un ange. Christ est supérieur aux anges parce qu'il est en égalité avec le Père, parce que rien de moins ne pourrait sauver. Il fallait que ce soit quelqu'un qui pourrait sympathiser par expérience avec les hommes. Et chers amis, écoutez, ça veut dire qu'il n'y a rien dans vos faiblesses et dans vos souffrances où Jésus n'est pas entièrement au courant, pas simplement parce qu'il est un Dieu omniscient de loin qui regarde et qui connaît, mais parce qu'il est devenu un être humain. Il était choisi par Dieu parmi les hommes pour apparaître devant Dieu différemment que les autres sacrificateurs. Il ne fallait pas qu'il passe le temps pour présenter des offrandes pour ses propres péchés. Il n'en avait pas, il sautait ce point. Il était supérieur. Et ce que nous avons n'a plus de rideaux, n'a plus de meubles, n'a plus d'ornementation, n'a plus de belles robes, n'a plus les choses qui provoquaient un esprit sentimental de révérence. Fini. Mais quand, pour nous aussi, quand on s'éloigne de Dieu, quand on est distrait par toutes les vicissitudes et toutes les difficultés de la vie, on a l'impression que ça serait mieux si j'avais des trucs, si j'avais des choses, si j'avais des bougies, si j'avais la glace colorée. Pour me forcer, je ne dis pas que ces choses sont forcément mauvaises, mais c'était devenu une détraction, une obstruction, un blocage total pour eux, parce qu'ils ne pouvaient voir aucune supériorité quand à un moment donné, il a goûté de ce salut, mais après il commençait à se retirer. Est-ce qu'on s'était trompé? Ah, s'ils étaient vraiment des croyants, ils allaient revenir, parce que né en eux est une vie éternelle qui ne supprimera pas, qui allait plus tôt ou plus tard le faire revenir. Il est intéressant que dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient pour les péchés de ignorance, pas pour des péchés provocateurs qui étaient faits en pleine rébellion contre Dieu. C'était des péchés d'ignorance, des péchés qui étaient faits pas exprès, des péchés qui étaient faits parce qu'on ne comprenait pas. En lisant à travers l'Ancien Testament, nous apprenons il y avait des péchés que quand quelqu'un se réalisait, que ce qu'il faisait était en flagrante contradiction de Dieu et qu'il se repentait, les passions de colère qui s'enflamment, et après, des passions de convoitise qui peuvent conduire dans la tentation et dedans pour tomber. Quand le repentant devant le Seigneur reconnaisse devant Dieu son péché et qu'il confesse humblement, tristement ses péchés, il figure parmi la catégorie péché d'ignorance, parce que ce qu'il faisait était hors de sa capacité de comprendre la gravité de ce qu'il faisait. Même sa rébellion, Dieu pardonne le rebelle si il se repente. C'est une raison que des chrétiens se mettent souvent ensemble pour confesser devant Dieu leurs péchés, pour prendre la Sainte Cène dans la réalisation que le corps de Christ a été brisé parce que mon sacrificateur, grand sacrificateur, souverain sacrificateur, a passé à travers les faiblesses de ma vie, sans commettre de péché. Nous n'avons jamais compris la totalité de pression contre le péché comme Jésus avait subi. Pourquoi pas? Parce que nous sommes tombés avant d'arriver aux limites de la pression maximale. Christ a été tenté en toute chose sans commettre du péché. Qualifié, il a passé le cours qu'il savait avant qu'il allait passer. Il a réussi, il est certifié, il est diplômé, il peut maintenant officiellement devenir notre sacrifice. Et il nous invite donc de faire ce qu'il avait dit aux Corinthiens, chapitre 11 de 1 Corinthiens. J'ai reçu, dit l'apôtre, du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, et maintenant Timothée a dit, par illustration, la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du sang du Seigneur.